Bienvenue sur le podcast de l'Office National de Diffusion Artistique. Mais vous pouvez nous appeler Londa. Merci d'avoir appuyé sur le bouton lecture de cet épisode. Nous vous emmenons avec nous à la rencontre de professionnels et artistes inspirants et inspirantes du spectacle vivant qui viennent d'ici et d'ailleurs. À Londa, ce qui nous anime et fait vibrer, c'est de faciliter, soutenir, mettre en relation, écouter, conseiller, toujours dans l'optique d'être utile aux opérateurs et opératrices du spectacle vivant. Pour en savoir plus sur nous et sur notre actualité, rendez-vous sur onda.fr. Dans cet épisode, vous pouvez écouter Olivia Granville, directrice d'Émile Plateau, Centre chorégraphique national de La Rochelle, et Stéphane Malfette, directeur des SUB à Lyon, qui, après avoir participé à un temps de réflexion sur la question des nouveaux espaces relationnels le 29 mai 2024 à La Rochelle, échange avec Marie-Pia Bureau, directrice de Londa, sur les projets singuliers qu'ils ont initiés dans leur ville et au-delà, et qui repensent les conditions de présentation des œuvres au public.
Bonjour Olivia Granville, bonjour Stéphane Malfette. Vous êtes pour l'une directrice du Centre National Chorégraphique de La Rochelle, pour l'autre directeur des SUB à Lyon. Et tous les deux, à votre manière, vous travaillez... Alors, c'est peut-être une dénomination de Londa, mais ce qu'on a nommé le temps d'une rencontre, de nouveaux espaces relationnels. Donc l'idée, c'était que chacun d'entre vous puisse présenter un peu ce projet. Pour vous, Olivia, c'est l'unité mobile d'action artistique. Pour vous, Stéphane, ce sont des commandes qui sont faites à des artistes d'installation chaque année dans la cour des SUB. Et tout ça vient certainement travailler un peu différemment des rapports qui sont des rapports peut-être au public, mais à la création artistique aussi et la façon dont on la conçoit. Voilà, Olivia, je vous passe la parole pour que vous nous racontiez l'UMA.
Bonjour. Donc effectivement, l'UMA, c'est un projet qui vient de loin quand même pour moi, parce que j'ai un long parcours en compagnie indépendante. Et j'ai toujours quand même mis sur le même plan à la fois mon travail de création, mon travail d'enseignement, mon travail d'interprète. Et en l'occurrence, sur tout ce qu'on appelle les actions culturelles, j'ai toujours très frustrée en fait de voir une espèce de sentir une forme d'éparpillement de tout ce qu'on faisait, de l'énergie qu'on mettait à aller rencontrer justement d'autres publics différemment et avoir le sentiment qu'à chaque fois c'était un peu des pierres lancées dans l'eau comme ça, qui ne se concrétisaient pas et surtout qui ne se reliaient pas à la création. Donc il y a ça d'une part qui m'a porté dans la création de l'UMA et d'autre part ce que j'ai traversé quand j'étais artiste associée au lieu unique où j'étais également conseil à la programmation et où je m'apercevais qu'il y avait tout un tas de formats qui n'étaient pas forcément adaptés au plateau traditionnel de théâtre puisqu'au lieu unique il y avait une salle avec un grand plateau et puis point et que notamment dans le domaine chorégraphique il y avait d'autres formes d'approche, en plus il manquait un studio de pratique. Bon, donc du coup j'ai proposé de scénographier un lieu et d'occuper en fait pendant 3 mois le théâtre avec tout un tas de propositions dont des processus de création rapide d'une semaine où les artistes arrivaient et créaient toutes les semaines un objet et puis des ateliers, des rencontres, etc. Donc ça s'appelait le Dance Park et ça faisait partie d'un projet qui s'appelait TOC, Théâtre d'opération chorégraphique. C'était super quoi, parce que tout d'un coup justement je trouvais que ça bougeait quelque chose dans la manière d'aller rencontrer les gens et il y avait des publics qui arrivaient là et qui me disaient mais enfin moi le simple fait de me retrouver près d'un danseur tout d'un coup j'ai pas du tout le même regard que celui que j'ai dans une salle. Donc quand on a fini cette chose là et que moi j'ai candidaté pour le CCN de La Rochelle, 1000 plateaux, qui est lui-même l'idée de multiplier les plateaux de pensée, les plateaux concrets et moins concrets, bah, j'ai réactivé tout de suite ce projet en me disant bah, ça serait chouette que ça soit itinérant, parce que ça avait été quand même un petit peu un crève-cœur de démonter cette chose-là et de ne pas pouvoir l'exploiter ailleurs. Donc on a lancé ce projet avec l'équipe du CCN, qui est donc un programme avant tout, puisque c'est vraiment l'idée de proposer des formats très, très divers et des parcours au travers de ces formats. C'est-à-dire que moi, il y a aussi une espèce de travail de dramaturgie comme ça, du parcours et de la traversée, sur des temps un peu longs, puisque ça dure une semaine, et incarné par un dispositif qui est un dispositif gonflable créé par une artiste, Koki Ek, qui est une artiste néerlandaise, donc qui n'est pas du tout un chapiteau, qui est une grosse bulle comme ça posée dans l'espace, qui transforme aussi le paysage, donc transforme ouais, c'est un peu un ovni qui se pose comme ça. Et du coup, déjà le fait même de cet objet fait qu'il y a un intérêt, il y a une curiosité, et on va pouvoir aller chercher des gens qui vont être un public involontaire, où l'expérience même de rentrer dans cette bulle, même sans rien y faire, est déjà quelque chose qui, je sais pas, qui amène un peu de poésie, quoi, ou de décalage, ou et qui fait qu'après on peut traverser différentes approches de pas seulement la danse, c'est pour ça que ça s'appelle UMA, Unité Mobile d'Action Artistique. Il n'y a volontairement pas le mot danse aussi, parce que c'est une multiplicité de choses. Il peut y avoir des concerts, des lectures, des installations, des promenades dans les bois, des spectacles aussi, parce qu'il s'agit aussi de faire des spectacles.
Merci, Olivia. Et alors vous, Stéphane? Du coup, c'est cette commande d'œuvres d'art qui reste sur la durée, en fait, implicitement dans ce que disait Olivia Granville, il y avait la notion déjà de durée, de, à partir d'un objet, faire diverses expériences. C'est quoi ?
En tout cas, je pense qu'il y a une inspiration et un désir qui sont certainement communs, après qui s'accomplissent de façon peut-être un petit peu différente. C'est vrai qu'aux subsistances, aux sub pour les intimes, on a la chance d'avoir un espace vraiment exceptionnel. C'est un grand site patrimonial, ça a été un couvent au XVIIe, puis une caserne militaire à partir du XIXe siècle. Et puis depuis 20 ans, c'est un espace dédié à la création, aux résidences pluridisciplinaires et également à la programmation. Donc on a des espaces dédiés à ça, il y a plusieurs plateaux, il n'y en a pas 1000, mais il y en a 3. Il y a 2 salles de spectacle et puis il y a des grands espaces dont l'usage est indéterminé, ou en tout cas reste à inventer. Et moi, je crois beaucoup à la façon dont les artistes peuvent transformer l'outil, transformer le lieu. Et c'est vrai qu'un lieu, c'est vraiment, moi, ma conviction, c'est un lieu, c'est ce qu'on y fait. Ok, il y a des murs, il y a une histoire, mais c'est vraiment ce qu'on y fait qui va donner le sens de ce lieu, qui va créer les modalités aussi de rencontre entre les œuvres et les publics. Et c'est vrai que ce mot de relation, ou en tout cas d'espace relationnel, il est important pour nous, parce qu'en fait, la commande d'œuvres qu'on fait chaque été, c'est vraiment pour mettre en relation bien sûr un public avec une œuvre, mais aussi pour au-delà de ça, que ça soit un petit peu le vecteur de multiples relations avec ce qui se passe au sub, ce qu'on voit moins bien, et puis ce qu'on aime venir y faire, c'est-à-dire voir des spectacles, mais aussi participer soi-même à quelque chose. On a tout un volet de pratique artistique important, et puis aussi des moments d'agrément, des moments où on vient boire un verre, on se retrouve en famille avec des amis sur une terrasse agréable. Donc voilà, c'est comment on arrive à aussi donner une unité à toutes ces ambiances très différentes. Et alors, c'est vrai que ça passe par une commande chaque année, chaque été. Et c'est vrai que c'est important aussi pour nous d'investir pleinement cette séquence estivale où finalement, un moment où nos camarades des autres lieux commencent à être en fin de saison, nous, on réouvre une autre saison puisque c'est du mois de mai au mois d'octobre, cette séquence de métamorphose du site. Et on est dans notre 4e expérience cet été avec une œuvre qui s'appelle Crescendo, qui a été conçue par un artiste suisse, Julian Vogel, qui a à peine 30 ans. On fait aussi le pari de cette jeunesse dans les commandes qu'on fait, avec ce désir de réunir une énergie à la fois liée aux arts visuels, mais aussi aux pratiques du spectacle vivant. Et pour nous, c'est très important, puisque cette œuvre, elle a une fonction d'activer plein de choses. On y fait aussi des spectacles. Ce n'est pas uniquement un beau décor. Et d'ailleurs, l'œuvre crescendo, ça devient même un agrès de cirque géant dans l'espace, puisque Julian Vogel est à la fois circassien et plasticien. Il fait des expositions et des spectacles de cirque. Ils sont peu au monde à réunir ces deux casquettes. Pour la première fois, et là, ça rejoint aussi, je pense, l'intention d'un projet comme celui d'Olivia Granville. Pour la première fois, on va faire tourner cette œuvre après son exploitation au Sud. Elle a été conçue pour tourner ensuite et pour aller dans des environnements complètement différents, mais apporter cette spécificité d'une œuvre monumentale dans laquelle d'autres artistes vont venir faire des choses, dans lequel il va se passer plein d'événements d'une certaine manière.
Merci Stéphane. Alors ça me donne envie de rebondir sur un point de vue d'artiste. Olivia Granville, quand vous avez lancé ce projet de l'unité mobile d'action artistique de l'UMA, qui était inscrite dans le projet de Mille Plateaux dès la candidature du CCN, donc qui est un peu une forme de matrice en fait de ce projet Mille Plateaux, vous aviez une série d'intuitions. Là, c'est la deuxième fois à La Rochelle que vous sortez le dispositif et vous l'expérimentez. Qu'est-ce que ça vous raconte entre les intuitions premières et ce qui se passe maintenant ? Et ce qui m'a inspiré cette question, c'était la réponse de Stéphane Malfette aussi, qui montrait bien que ce sont des espaces, des dispositifs. D'abord, on a du mal à trouver le mot pour les qualifier, des œuvres aussi, qui ouvrent en fait à des champs nouveaux.
Oui, c'est vrai qu'on a du mal à le nommer. Moi, je défends l'idée que l'UMA, c'est une œuvre programmatique, en fait, c'est une œuvre sérielle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque activation, en fait, c'est une œuvre en soi, différente. Par rapport à mes intuitions et mes naïvetés et mes impensées, on s'est évidemment, depuis 2 ans, on s'est confronté au principe de réalité. Mais en fait, malgré tout, ce qui se passe correspond vraiment à ce que j'attendais, parce que bon, il y a une chose que j'ai pas évoquée, c'est que ce projet, il est né, je l'ai écrit aussi en plein Covid quand même, donc à un moment donné où non seulement on questionnait notre caractère essentiel, mais en plus il y avait quand même tout un tas de questions qu'on commençait déjà à se poser même avant le Covid sur notre éco-responsabilité en termes de mobilité. Enfin bon, moi je suis jamais quelqu'un qui a tourné à mort dans tous les pays du monde, mais enfin quand même on a vu quand même beaucoup ça pendant de nombreuses années. Donc il y avait l'idée de se déplacer sur un circuit court, de rester un peu plus longtemps, de créer des œuvres rapidement, de faire un objet qui soit léger énergétiquement, etc. Mais aussi de créer un écosystème non seulement avec le public, mais même nous entre artistes et dans cette relation qu'on a dans le monde du spectacle vivant, qui comprend la relation avec les programmateurs, la relation avec les lieux qui nous accueillent, les artistes qui collaborent, etc. Et ça, en fait, je trouve que c'est assez passionnant, parce que tout ce qui s'est construit là, ça bouge les rapports sans arrêt, en fait. Et pas seulement avec les publics, aussi entre nous, puisqu'il a fallu que... Là, par exemple, dans les premières éditions de l'UMA, on a travaillé avec nos artistes associés, qui sont Collectif S et La Tierce. Et bah, les premières fois, c'était pas si évident que ça, pour 3 compagnies comme ça. Bon, moi, j'étais à la place de l'initiatrice du projet, mais ils n'avaient pas forcément envie de partager non plus des choses avec moi ou de devenir les interprètes les uns des autres, quoi. Ça a posé quelques questions quand même. Et puis, à un moment donné, il a fallu se rendre à l'évidence que oui, il fallait quand même partager un petit peu, mettre un peu son ego de côté pour quand même croiser des choses et mettre en commun nos forces vives, quoi. Et en fait, la co-construction de chaque session aussi avec les lieux, bah c'est pareil. C'est comment est-ce que moi, je me fais pas manger non plus par les lieux qui seraient tout d'un coup, on amène à un espèce d'objet vide qu'on remplit d'une programmation de festival, parce que c'est vraiment pas du tout ça l'idée. Et du coup, j'ai eu du mal à le défendre au départ, mais je trouve que maintenant c'est passé et que du coup, il y a un dialogue qui s'instaure avec les lieux qui aident et qui accompagnent et qui accueil qui est super passionnant. Et l'étape d'après, ça sera quand on va se déplacer dans des lieux beaucoup plus modestes, dans des villes, que les opérateurs vont changer. Ça va être plutôt les collectivités territoriales, etc. Comment ça va se passer, quoi ? Et comment est-ce qu'on crée cet écosystème aussi bien dans ce monde-là, mais aussi quand on arrive sur un endroit, avec les gens qui vont s'occuper de la sécurité, avec les gens qui vont faire à manger, avec tout ce qui se déploie autour, quoi.
Mais c'est vrai que, et je ne dis pas ça parce que je parle dans un podcast initié par Londa, mais en tout cas pour nous, c'est aussi une réponse à des problématiques de permanence artistique, de diffusion de séries. C'est vrai qu'on dit beaucoup aujourd'hui, il faut produire moins, il faut mieux diffuser, etc. Ok, on en est tous convaincus. Après, les réalités de chacun, chacune, sont très différentes. Nous, on n'est pas du tout dans des esthétiques, des formats où on peut présenter 30 soirs le même spectacle. On est avec des artistes quasiment inconnus, souvent des premières créations. Et on sait que ce n'est pas forcément à ce moment qu'on peut développer des séries. Donc c'est vrai qu'un objet, une commande comme celle qu'on fait, c'est une façon d'inscrire une permanence artistique différemment. Déjà parce que l'artiste avec lequel on conçoit cette œuvre, on passe du temps ensemble. Hein. En général, on passe comment de 2 ans à peu près avant l'inauguration. Il y a aussi tout un moment de résidence sur place, après de conception, de fabrication. On va chercher des partenaires culturels, financiers, industriels. À chaque fois, c'est vraiment une aventure commune. C'est pas une agence d'art contemporain qui vient faire ça dans nos murs. On fait ça un petit peu de façon artisanale, d'une certaine manière. Et après, on y conçoit aussi toute une séquence. Et effectivement, c'est pas nous non plus, c'est pas un festival. C'est vraiment une saison d'été qui se déploie en partie dans cette œuvre, mais aussi dans d'autres espaces des subs. Et cette séquence, on la conçoit en associant l'artiste qui a conçu l'œuvre, puisque lui-même y fait des choses. Julian Vogel a fait une performance pour l'inauguration de cette œuvre. On a invité des artistes à s'emparer de cette œuvre, soit pour contextualiser des spectacles déjà existants, soit pour faire une sorte de happening event, soit pour vraiment concevoir une création spécifique pour l'œuvre. Et puis, ce parcours qu'on a avec un artiste comme Julian Vogel, il s'incarne aussi avec ce qu'il aime aussi faire, c'est-à-dire des spectacles dans des scènes, sur des scènes de théâtre. Et donc, en fait, au moment de la fin de cette exploitation de Crescendo, de cette œuvre sur l'esplanade des subs, ça sera au mois d'octobre, on va créer dans une de nos salles la prochaine pièce de Julian Vogel. Donc, il y aura une sorte de boucle qui se bouclera avec aussi la création en salle de son spectacle. Donc c'est pour ça, ça relie tout ça, c'est pas exclusif, on va pas se dire on fait que des trucs dehors pendant toute la saison. Et je pense que Uma procède aussi de cette manière là en tout cas moi ce que j'en ai compris, c'est que les lieux qui s'en emparent accueillent effectivement un dispositif où il se passe plein de choses dans la bulle, mais aussi à l'extérieur et aussi en salle pour jouer ce dialogue et cette espèce de pluridimensionnalité de la création artistique aujourd'hui.
Merci. Et peut-être ma dernière question, c'est sur les freins quand même. Du point de vue de Londa, par exemple, et par le prisme de la diffusion, je le vois bien, le frein. C'est-à-dire que on a tendance à considérer que la production, c'est effectivement la production d'une œuvre comme un produit, et puis après, la diffusion, c'est sa distribution, finalement. Et là, on est sur une toute autre conception de ce que c'est que la diffusion, et de peut-être de ce que c'est qu'une œuvre, pas comme un artefact reproductible, mais plutôt comme quelque chose qui va se déployer en contexte et et changer en fonction des contextes et des personnes qui sont autour à chaque fois. Et j'ai l'impression que il y a quand même des complexités aujourd'hui pour développer ce type de projet. Peut-être Olivia.
Oui, effectivement. D'abord, le frein principal, c'est tout simplement le nerf de la guerre, l'argent. C'est-à-dire que ça coûte cher, en fait. Ça coûte cher financièrement. Ça coûte cher en investissement des lieux aussi, parce que l'idée... Et en plus, ça peut coûter moins cher. Plus il y a d'investissement des lieux, et moins ça peut coûter d'argent, parce que du coup, ça veut dire s'investir en amont avec des habitants sur le territoire pour préparer des choses qui après prennent place dans le lieu. Donc c'est beaucoup de travail avec toutes les équipes, les relations publiques, les partenaires, etc. en amont. Bon, mais ça, là, par exemple, dans les prochaines expériences, qui va être essentiellement notre soutien du Festival Transform, la Fondation Hermès, qui nous a quand même beaucoup, beaucoup aidés et qui nous permet de sortir, de faire exister le projet, on est adossé à des lieux formidables comme les SUP, justement, où on a... c'est très luxueux. Après, la question qu'on se pose vraiment, c'est comment ça va se passer après. Dans l'objectif qui est vraiment l'objectif premier de l'UMA, c'est-à-dire d'aller effectivement sur des endroits où il n'y a pas forcément de théâtre auquel on puisse s'adosser ou des structures beaucoup plus modestes. Donc là, comment est-ce qu'on va repenser encore une fois le modèle économique de la chose pour travailler encore une fois en local avec des gens, avec les conservatoires, voilà, et quand même maintenir la qualité de ce qu'on propose et amener des vrais objets, des plats de résistance à l'intérieur de tout ça. Donc il y a ça, et puis les obstacles aussi, en dehors de la reconnaissance que ce soit une œuvre, mais ça j'en ai déjà parlé, ça, c'est toujours un petit peu complexe, c'est aussi tout simplement, on est en France dans un système où les règles de sécurité du spectacle vivant, c'est absolument mais délirant par rapport à tous les autres pays. Donc il y a des gens qui ne veulent plus, enfin, des scénographes ou moi j'ai eu du mal à trouver quelqu'un pour faire une structure gonflable en France, parce qu'il y avait des gens qui m'ont dit mais nous on ne va plus en France parce qu'en fait on ne peut plus rien faire parce qu'il y a tellement la peur de tout, donc il faut barriérer, et on finit par abîmer un objet plastique en le transformant en cirque plein d'air, quoi. Donc c'est compliqué quand même, donc ça on lutte beaucoup et on essaye de trouver des solutions avec les équipes pour détourner, contourner cette chose-là, tout en respectant les règles. Parce que sinon, au fur et à mesure, ces règles nous font dévier du projet initial et rendent justement écologiquement beaucoup plus lourd les choses, parce que ça veut dire des transports plus importants, parce que voilà, les freins, ils sont là, on bataille avec ça depuis un petit moment.
Et toi, Stéphane, qui as une expérience de ça maintenant, c'est quoi, la troisième ou la quatrième édition de ces œuvres d'art, tu vois des freins, mais plutôt des ouvertures, des voies à travailler pour que ça soit possible en termes de production et d'exploitation, et que voilà, ça soit plus simple.
Disons que c'est vrai, à chaque fois, il y a vraiment une dimension de pari, de défi en lançant ce genre de projet. Après, nous, on est hyper convaincus par ça, et c'est vraiment toute une équipe qui se met au service de ce projet. On a sédimenté aussi une expérience. C'est vrai qu'on a eu des moments très compliqués sur certaines œuvres, des choses plus simples. On a pu bénéficier de financements exceptionnels. Je pense qu'on a fait une œuvre avec un artiste syrien installé en France, Khaled Alwaria, il y a 2 ans, qui a fait une sorte de kraken géant. C'était une énorme structure en bois. On avait bénéficié, en tout cas, il avait bénéficié du dispositif Monde Nouveau. Bon, voilà, à chaque fois, on essaye de faire feu de tout bois pour réunir les moyens nécessaires aux ambitions de ce genre de projet, parce qu'on fait des choses monumentales et c'est pas juste pour faire des grands trucs, c'est juste vraiment pour ne pas faire rentrer l'art dans des petites boîtes. C'est un peu ça notre esprit, de penser assez grand, et puis on verra après comment on y arrive. C'est vrai qu'à chaque fois on a des partenaires un peu inattendus aussi, qui rendent certaines choses possibles. Y a quand même, mais en même temps, on essaye de le cultiver, une notion d'imprévisibilité. Et si on fait tout ça aussi, c'est pour garder ça. Je pense que c'est vrai que les préventionnistes ont un rôle peut-être un peu trop important dans l'organisation de nos sociétés. Et ça déteint un peu sur notre mental. C'est vrai que sur la ligne de départ, on aurait toutes les raisons pour faire autre chose et différemment. Mais finalement, en bout de chaîne, ce qu'on souhaite, c'est que ça reste imprévisible aussi pour les artistes, pour le public. Ça crée des espaces d'imprévisibilité. On ne surdétermine pas forcément trop ce qui va se passer. Et puis, et finalement, c'est aux autres de s'en emparer. On fait exister comme ça une situation pour que, voilà, advienne quelque chose qu'on n'aura pas nous-mêmes en tant que responsables culturels surdéterminé. Et ça, c'est génial de participer à quelque chose où on est soi-même surpris, où on découvre des fonctionnements qu'on n'avait pas du tout anticipés, qu'ils soient positifs ou moins positifs. Mais en tout cas, qu'il y ait ce truc. Et pour une institution, même si on n'est pas très institutionnel au SUB, mais c'est assez génial d'être dans cette imprévisibilité.
Merci.